Katia Beach.
L'échange téléphonique entre la présidente de la Confédération Graine Keller Sutter et Donald Trump le 31 juillet interroge. Selon la Sonntag Zeitung, Trump aurait perçu la Suissesse comme moralisatrice, se référant à un article de l'agence de presse Bloomberg. Sonntag Blick écrit que Trump se serait senti offensé par le fait que Graine Keller Sutter n'a rien proposé pour nous modifier le déficit commercial. En colère, il aurait donc imposé le taux de taxe douanière de 39% de manière plus ou moins arbitraire, selon une personne proche du dossier interrogé par l'agence Bloomberg. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv en soutien aux familles des otages toujours aux mains du Hamas. La foule exige leur libération. Jeudi, le groupe terroriste a diffusé une nouvelle vidéo montrant deux otages très amaigris et affaiblis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit consterné par ces images. Au Chili, un des cinq mineurs piégés après l'effondrement de l'une des plus grandes mines du monde a été retrouvé mort par les sauveteurs. Quatre autres mineurs sont toujours recherchés à plus de 1200 mètres de profondeur. Les opérations de recherche sont fastidieuses. L'exploitation compte 4500 km de galeries. Les plaintes concernant les fausses promesses de coachs de vie ont presque triplé depuis le début de l'année en Suisse auprès de la Fondation pour la protection des consommateurs en Suisse alémanique. Si les annonces continuent de se multiplier, la Fondation pourrait prendre des mesures afin que les consommateurs soient protégés contre les offres douteuses. Ni le titre, ni la formation, ni l'activité des conseillers de vie ne sont réglementés. Le marché est extrêmement opaque. Il n'existe ni chiffre officiel, ni conditions d'admission. Plus de 12 000 personnes ont participé hier après-midi à la marche des fiertés de Berne. Selon les organisateurs, malgré une météo capricieuse, le cortège a animé la vieille ville avant de rejoindre la place fédérale où un Pride Festival était prévu. Les organisateurs ont souligné l'ambiance ouverte et bienveillante qui a prévalu durant cet événement. En football, le Servette FC s'est à nouveau incliné hier soir en Super League face au FC Saint-Gall 4-1 après l'échec face à Young Boys samedi dernier. Et Young Boys, cette fois, était tenu en échec à Winterthur, 1-1. Bâle s'est imposé face à Grasshopper, 2-1. Et cet après-midi, le Lausanne Sport se déplace à Thun, coup d'envoi à 14h et le FC Sion accueille Lugano à 16h30. En cyclisme, Pauline Ferrand-Prévot a réussi un coup double lors de la 8e et avant-dernière étape du Tour de France féminin hier. Elle s'est imposée au sommet du col de la Madeleine et s'est emparée du maillot jaune de leader. La genevoise Élise Chabet conserve le maillot à poids de meilleure grimpeuse. La météo, le temps sera bien ensoleillé ce dimanche en plaine avec des passages nuageux plus fréquents en direction du nord, notamment en Ajoie. L'après-midi, développement de cumulus, surtout le long des reliefs, pourront donner quelques averses isolées. Il fera de 20 à 24 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Matine, Sydney Fierro.
Bienvenue dans cette émission de Matine, si vous nous retrouvez à l'instant. Dans la première heure, nous avons traversé les images de l'enfer, dans les textes, dans les arts, dans les traditions du monde entier. C'était un voyage au cœur des ténèbres, mais juste avant les informations, avec aussi un premier frisson de lumière, un petit avant-goût de ce paradis, peut-être une promesse. Alors c'est là que nous allons maintenant. Ces visions de paix, de beauté, de réconciliation aussi. Le paradis qui est une espérance, une élévation, mais aussi une présence intérieure.
Thank you.
Tout commence avec le jardin d'Éden dans le livre de la Genèse. C'est un jardin planté par Dieu lui-même. Un fleuve le traverse, des arbres portent des fruits, et l'homme et la femme y vivent nus en harmonie avec les bêtes et la terre. Et ce jardin, ce n'est pas qu'un lieu de récompense, c'est l'origine perdue. L'Éden dans la Bible est derrière nous, mais dans la mémoire des croyants, il devient une image du paradis futur, un modèle à retrouver, à réinventer. Dans le Coran, on retrouve cette même image paradisiaque avec des jardins sous lesquels coulent les rivières. Le plus haut d'entre eux s'appelle Al-Firdaw, mentionné dans la sourate numéro 23. Là, les croyants justes sont accueillis dans une paix parfaite. Ils y trouvent des fruits, de la lumière, de la compagnie. C'est un lieu d'intimité divine, pas seulement de plaisir, mais de proximité avec le miséricordieux. Chez les chrétiens, le paradis final n'est pas seulement un jardin, c'est aussi une cité. Une Jérusalem céleste qui descend du ciel à la fin de l'Apocalypse. Elle est faite d'or pur, de pierres précieuses, de lumière sans ombre. Il n'y a plus de temple car Dieu habite la cité lui-même. L'arbre de vie y refleurit et ses feuilles guérissent les peuples. Là encore, un passage du jardin à la ville, de l'innocence à la communion. Et l'art, encore une fois, a donné chair à ses visions. Chez Fra Angelico à Florence, dans sa fresque du Jugement dernier, les élus sont représentés dans un jardin fleuri, paisible, où les âmes dansent rondes sous la musique des anges, et dans la clarté retrouvée d'un monde qui est réconcilié. Et cette vision va traverser les siècles. Chez Malheur, au début du XXe siècle, elle renaît, avec une voix d'enfant qui va s'élever, simple, pure, pour chanter le paradis comme un lieu d'innocence, de jeu, de musique. Pas d'or, pas de trône, pas de jugement ici, mais seulement des anges qui vont chanter, des saints qui cuisinent, des bêtes heureuses, et puis un violon céleste.
Thank you.
Nous venons de traverser des jardins symboliques, du premier Éden à la cité céleste de l'Apocalypse, des images, des récits, des promesses aussi. Mais pour certains croyants et croyantes, le paradis n'est pas un lieu, n'est pas non plus un futur, c'est quelque chose qui est déjà là, au cœur de l'âme. Et eux, ce sont les mystiques, ceux et celles qui disent avoir fait l'expérience directe du divin. Pour eux, le paradis, c'est l'union, la fusion, l'amour pur. Par exemple, Thérèse d'Avila, cette mystique espagnole du XVIe siècle. Dans Le Château intérieur, elle décrit l'âme comme un palais de cristal aux innombrables demeures. Plus l'âme s'enfonce dans la prière, plus elle s'approche du centre. Et là, dans la pièce la plus secrète, elle trouve Dieu, non pas comme une idée, mais comme une présence vivante et brûlante. Elle écrit, je cite, « Je vis qu'il était en moi comme un soleil au centre de l'âme ». Fin de la citation. Donc ce n'est pas un paradis après la mort, c'est un état, un éblouissement d'amour, un effacement de soi dans l'infini. Les mystiques soufis de l'islam expriment une intuition assez proche. Pour Jalal al-Din Rumi, poète et maître spirituel persan du XIIIe siècle, le paradis n'est pas fait de rivières ou de palais, mais il est dans la rencontre intérieure avec l'aimé, c'est-à-dire avec Dieu. Il écrit « Depuis le début de ma vie, j'étais à la recherche de ton visage ». L'enfer, on l'a vu, c'est donc la séparation, et le paradis, c'est cette proximité retrouvée. Mais cette proximité qui ne dépend pas d'un monde extérieur, qui est une ivresse de l'âme. Dans le nord de l'Europe, au XIIIe siècle, une béguine flamande emploie le langage de l'amour courtois pour dire cette union. L'âme devient amante, Dieu devient l'aimé, leur relation dépasse les normes. C'est la même chose chez Jean de la Croix, en Espagne. Dans la vive flamme d'amour, il évoque l'union comme une brûlure douce et une paix totale. Dieu devient l'époux, l'âme, entièrement offerte, entre dans une communion qui dépasse les mots. Ces mystiques, donc, témoignent d'une expérience intérieure et tous, malgré les siècles et les langues, convergent vers une même idée. Le paradis, ce n'est pas plus tard, ce n'est pas ailleurs, mais c'est maintenant, si l'on aime assez. Dans certaines traditions du monde, il n'y a pas de paradis figé ni de promesses futures, mais une circulation vivante entre les mondes. Chez plusieurs peuples d'Afrique de l'Ouest ou du Centre, le lien avec les ancêtres n'est pas un souvenir, mais c'est une présence active. Le monde des esprits est ici, dans l'air, dans la mémoire, dans les gestes rituels. Un ancêtre honoré va protéger, mais un ancêtre oublié peut troubler. Chez les Amérindiens, la frontière entre le visible et l'invisible est très fine. La prévie n'est pas un jugement, mais plutôt un retour au cercle, aux esprits, à la terre, au vent, au feu. Certains parlent de plaines éternelles, d'autres d'un sentier sacré à travers les montagnes. Mais toujours, l'équilibre compte plus que la récompense. À Hawaï, la vie est un passage entre deux mondes. Po, l'obscur, le monde des origines, des morts, des dieux, et Ao, la lumière, la clarté, le jour. Et par les chants, les danses, les prières, on va tisser le lien. Le paradis donc est dans l'harmonie des passages et dans la qualité du lien. Mais avant d'atteindre cet au-delà, quel qu'il soit, il faut souvent passer, traverser un fleuve ou franchir un pont, affronter des ombres. Et dans presque toutes les traditions du monde, la prévie commence par une épreuve de passage. Dans la mythologie grecque, les morts doivent franchir le Styx, ce fleuve sombre qui sépare le monde des vivants et celui des morts. Pour traverser, il faut payer Charon, le passeur, sinon l'âme erre éternellement sur les rives. C'est donc un rite de passage redouté, et très respecté, on plaçait une pièce dans la bouche des morts pour payer le voyage. Dans l'islam, il y a un passage encore plus périlleux, le pont de l'épée, appelé Asirat. Il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame. Chaque âme devra le traverser au jour du jugement. Les justes y passent comme un éclair, les injustes y trébuchent. Mais Dieu est aussi celui qui soutient. Là encore, on ne franchit pas seul. Dans le bouddhisme tibétain, le voyage, lui, est intérieur. Le bardo todol, qu'on appelle souvent le livre des morts tibétains, décrit les états intermédiaires entre la mort et la renaissance. Pendant 49 jours, l'âme est confrontée à des visions. des divinités paisibles ou terribles, des sons, des lumières. Et si elle s'attache, elle renaît. Si elle comprend que tout est illusion, alors elle est libérée. C'est donc une traversée mentale, mais aussi éthique. L'enfer, ici, c'est l'attachement, l'ignorance, la peur. Et pour Carl Gustav Jung, tous ces passages symboliques racontent aussi notre voyage intérieur. Il écrit que l'enfer est un archétype de l'inconscient, un lieu où l'on descend pour mieux renaître. L'individuation passe donc par une nuit noire, une épreuve, un Styx intérieur. Peu importe donc la culture, la religion ou l'époque, il y a toujours quelque chose à traverser. Et dans ce passage, on ne garde que l'essentiel.
Plus haut de l'art mortel. L'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer, c'est les autres a été toujours mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés. Que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qui est de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours, le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces gens ne sont pas semblables à nous. Les trois personnes que vous entendrez dans le huis clos ne nous ressemblent pas en ceci, que nous sommes tous vivants et qu'ils sont morts. Bien entendu, ici, mort symbolise quelque chose. Ce que j'ai voulu indiquer, c'est précisément que beaucoup de gens sont encroûtés dans une série d'habitudes, de coutumes, qu'ils ont sur eux des jugements dont ils souffrent, mais qui ne cherchent même pas à changer. Et que ces gens-là sont comme morts, en ce sens qu'ils ne peuvent pas briser le cadre de leurs soucis, de leurs préoccupations et de leurs coutumes, et qu'ils restent ainsi victimes, souvent, des jugements qu'on a portés sur eux. À partir de là, il est bien évident qu'ils sont lâches ou méchants, par exemple. S'ils ont commencé à être lâches, rien ne vient changer le fait qu'ils étaient lâches. C'est pour cela qu'ils sont morts. C'est pour cela, c'est une manière de dire que c'est une mort vivante que d'être entouré par le souci perpétuel de jugement et d'action que l'on ne veut pas changer. De sorte que, en vérité, comme nous sommes vivants, j'ai voulu montrer, par l'absurde, l'importance chez nous de la liberté. C'est-à-dire l'importance de changer les actes par d'autres actes. Quel que soit le cercle d'enfer dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le briser. Et si les gens ne le brisent pas, c'est encore librement qu'ils y restent, de sorte qu'ils se mettent librement en enfer. Vous voyez donc que rapport avec les autres, encroûtement et liberté, liberté comme l'autre face à peine suggérée, ce sont les trois thèmes de la pièce. Je voudrais qu'on se le rappelle quand vous entendrez dire « L'enfer, c'est les autres ».
Thank you.
Nous avons traversé les enfers, les paradis, les ponts, les danses, les fresques, les visions aussi. Mais ce matin, il reste une question, peut-être même la plus importante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste pour nous de ces images? Est-ce que ce sont des croyances dépassées? Est-ce que ce sont des mythes d'un autre âge? Ou bien est-ce qu'il continue de nous parler autrement? Certains théologiens contemporains, comme le dominicain Adrien Candiar, appellent à repenser l'enfer. Est-ce qu'on peut croire à un Dieu d'amour et à un enfer éternel? Est-ce que c'est pas un contresens? Dans ses conférences, il rappelle que l'enfer n'a jamais été défini de manière dogmatique par l'Église, qu'il reste un mystère, une image. Peut-être faut-il y voir notre refus d'être aimé, plutôt qu'un châtiment voulu par Dieu. Le théologien et psychanalyste Maurice Bellet va lui encore plus loin. Pour lui, l'enfer n'est pas après la mort. C'est ce que vivent déjà certains humains ici-bas. Une solitude extrême, le silence, la torture psychique, les guerres, l'exclusion. Il écrit que ce qui est insupportable, ce n'est pas le mal, c'est l'absence d'amour au cœur du mal. Et c'est cela, peut-être, le vrai enfer. Et en ce qui concerne le paradis, alors? Les paradis sont plus forcément des lieux d'or et de lumière. Certains les cherchent dans la musique, la nature, la prière, la création artistique, d'autres dans la justice, l'hospitalité, la beauté, le lien entre les vivants. Le paradis devient alors un geste, une manière d'habiter le monde, une orientation intérieure. Simone Weil, philosophe mystique du XXe siècle, écrivait que le véritable bien est ce qui libère l'être pour aimer. Pour elle, le paradis, c'est pas un confort, mais c'est un état de lucidité, de dépouillement, d'attention à autrui. Elle ne parle pas d'un au-delà idyllique, mais d'un effort quotidien pour rester présent à la grâce, même minuscule. Et peut-être qu'au fond, l'enfer et le paradis ne sont pas nécessairement ces lieux, ni même des croyances fixes, mais des forces, des expériences, des directions. Et chacun, chacune, porte en soi cette capacité de faire grandir la lumière ou d'alimenter la nuit.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité sur nos ondes RTS Espace 2. On termine donc avec cette thématique de l'enfer et la voix de Stromae, précédée par un De Profundis de Sergueï Akounov avec l'Intrada Vocal Ensemble. Vous avez pu entendre auparavant d'Hippolyte Arissi, cet opéra de Jean-Philippe Rameau, l'air qu'elle plainte en ces lieux m'appelle avec Lauren Hunt, mezzo-soprano, précédé par un chant des îles Marquises et l'ensemble Voix des îles. Auparavant, c'était deux extraits des grandes louanges du soir et du matin, les Vêpres de Sergueï Rachmaninov, Andrei Petrenko à la tête du chœur philharmonique de Yekaterinbourg, et puis un extrait de la quatrième de Mahler, dont nous avons entendu le quatrième mouvement, Das himmlische Leben, qui nous décrivait les joies du paradis, avec Barbara Bonnet, soprano, et l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Ricardo Chailly, précédé par la musique de Federico Monpou, Arkady Volodos au piano pour un extrait des Canciones Beckerianas, Holy la Tierra y los Cielos me sonrien. Enfin, nous avons terminé la première heure avec un extrait du Requiem de Gabriel Fauré, In Paradisum, avec le chœur de la radio dirigé par Frédéric Malmberg, précédé par L'île aux morts, un poème symphonique de Sergueï Rachmaninov avec Maris Jansons à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg. Auparavant, c'était Legend avec les voix bulgares et l'ensemble Hunhurtu, avec l'art trio de Moscou également pour cette musique traditionnelle, précédée par Aux Abysses, Wang Li à la flûte et à la guimbarde, un extrait de la messe solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod, avec la voix de Barbara Hendricks, soprano, l'Orchestre Philharmonique de Radio France de Paris sous la direction de Georges Prêtre, que vous avez pu entendre juste avant, précédé par la musique juive de ces trompes de Jéricho, Jordi Savall à la tête de son ensemble Hespérion 21. Auparavant, Eugène Isaïe avec Obsession et cette citation du Dies Irae, et nous entendions Rachel Colli-d'Alba au violon. Enfin, auparavant, c'était la musique de Ligeti avec un extrait du Requiem, le Berliner Philharmoniker sous la direction de Jonathan Nott avec les London Voices. Et puis, auparavant, c'était le Dies Irae par l'ensemble Les Lunésiens. Enfin, de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, nous avons entendu l'Air Barmedi avec Lucille Richardot, mezzo-soprano, l'ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon, précédé par un Dies Irae de Thomas Fancellano et par le Dies Irae de Luca Giuoco. Enfin, en début d'émission, c'était Les éléments, le chaos de Jean Ferry, rebelle avec l'ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon, et en ouverture d'émission, la messe de Requiem de Jean-Richard Faure, dont nous avons entendu le début avec l'ensemble Huelga sous la direction de Paul Van Nevel. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, très bon dimanche, hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À tout bientôt.
Wie mir
Berliner Philharmoniker sous la direction de Simon Rattle pour cet extrait de la 9e symphonie en ré mineur de Ludwig van Beethoven avec cette fameuse ode à la joie de Schiller. Excellente journée à toutes et tous, il est 9h et c'est le moment des informations sur RTS Espace 2.